France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, je reçois Zoé Marchal, une actrice qui s'est fait connaître très jeune à la télévision, qui a marqué les esprits avec la série Scam France, qui a enchaîné les rôles au cinéma et a livré une prestation mémorable dans le très sous-côté Nouveau Riche. On va en parler aujourd'hui, j'adore ce film. Et aujourd'hui, elle est à l'affiche d'une nouvelle série très attendue sur Netflix, Les Lyonnes, disponible dès le 5 février, dans laquelle elle incarne Kim, un personnage pour le moins intense, actrice mais aussi autrice, créatrice. Elle appartient à une génération qui ne veut plus choisir entre les formats, entre les écrans, entre liberté, exigence. On est avec Zoé Marchal jusqu'à 23h, c'est tout de suite.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Tiens, je suis pas ton épicerie.
Pas sûr, ça.
Tranquille. Eh, je te dis, me touche pas, espèce de porc, va.
Comment je suis censée vivre avec 30 euros par semaine? Vous voulez que je me prostitue ou quoi?
Faut 2000 euros, là, pour refaire l'appart. Sinon, je perds la garde de mes enfants.
Je vous avouerai que j'ai une petite dette de jeu que je vais avoir du mal à rembourser à Ezekiel.
Il est où, mon oseille?
Combien?
30 000.
Alors, on va régler ça l'ancien.
On va pas cesser de marcher dessus.
Non mais c'est bon, on va trouver une solution.
Go fast, balise marocaine, speedboat, tout ça.
T'as pris tes médocs, chou?
Non!
On a un plan. On braque ma banque.
Bah viens, on le fait.
Faut qu'on reste soudés et défendre notre territoire comme des lions.
Ça c'est un extrait donc de la bande-annonce, Les Lyonnes, donc la série disponible le 5 février, avec, entre autres, toi. Comment ça va, Zoé?
Ça va, et toi, quelle jolie intro que tu m'as fait.
Bah écoute, je suis très content que tu sois là, vraiment.
Moi aussi.
Parce que, moi, c'est vrai que je t'ai découvert un peu tard dans Nouveau Riche. J'adore ce film. Mm-hmm. Voilà, je te le dis. Mais là, t'es là pour d'ailleurs une autre production Netflix, Les Lyonnes, ouais. Qui est donc, pour faire rapidement le pitch, mais une série, je pense qu'on peut dire d'action, mm-hmm. en réalité, entre humour et action. En fait, c'est l'histoire d'un groupe de femmes qui sont dans des difficultés financières pour diverses raisons et qui vont décider de faire un premier braquage, mm-hmm. et va s'en suivre plusieurs péripéties. Ça se passe à Marseille. Comment le projet est venu à toi? Comment c'est arrivé? Comment tu as eu l'envie d'être dans cette aventure?
D'ailleurs, tu pitches mieux que moi.
Moi, je pitche très mal pourtant. Donc, tu dois être une très mauvaise
pitcheuse. C'est hyper clair.
Ok, très bien. Bon, tant mieux.
Comment c'est venu? Tout simplement, mon agent qui m'a appelé pour me dire, voilà, il y a un casting de la prochaine série d'Olivier Rosenberg que je connaissais de Family Business.
Qui est comédien dans Family Business.
Qui est comédien, ouais. Et qui a co-écrit aussi Family Business, absolument. Avec Igor Gottesman. Et donc, il a créé cette série, Les Lyonnes. Donc, j'ai reçu les deux premiers épisodes. On m'a dit, est-ce que tu veux passer le casting? J'ai lu les deux premiers, et c'est la première fois où je lis un projet en casting où je me dis, oh, j'ai tellement envie de lire la suite, et j'ai tellement ri en lisant que c'est souvent bon signe quand tu rigoles en lisant. Et du coup, j'ai voulu passer les essais, j'ai fait deux tours, je crois, mais ça a été très vite une évidence avec Olive. Je pense qu'il m'avait vu dans Nouveau Riche aussi, j'avais beaucoup aimé. C'était un peu nouveau de voir
complètement.
Et du coup, ça s'est fait direct, quoi.
T'as senti qu'il y a eu... je voulais qu'on en parle plus tard, mais on peut commencer à en parler maintenant, mais qu'il y a eu un avant et un après, Nouveau Riche, justement, ce film. Parce que moi, je me rends pas compte, tu sais, comme c'est un film de plateforme, tu sais, donc on n'a pas forcément les entrées en salle, etc. Enfin, c'est forcément. Donc, je me rends jamais compte du succès réel de ce genre de film, tu sais. Moi, je sais qu'il m'a marqué et que j'ai eu vraiment l'impression de voir un ovni dans le cinéma français, quelque chose qui ressemblait à pas grand-chose d'autre, où l'équilibre entre humour, action était parfaitement maîtrisé, l'alchimie entre toi et Nassim Yass, il y avait vraiment quelque chose d'assez fou, je trouve, qui s'est produit. Donc toi, en tout cas, en tant que comédienne qui mène sa carrière, t'as senti que ça a déclenché quelque chose?
Ouais. En fait, moi, c'est après le tournage de ce film, après que le film, même on ait fini de tourner le film, pardon, qu'il soit pas sorti forcément, c'est la première fois où j'ai eu la légitimité de me dire « Ah, je suis actrice ».
Avant ça, c'était pas le cas?
Non, pas trop. À chaque fois, on me disait, ouais, tu fais quoi dans la vie? Je fais, ouais, j'essaie d'être un peu actrice. Alors, j'avais tourné quand même des trucs, j'avais fait des trucs sur YouTube, enfin, tu vois, mes propres trucs et tout. Mais là, je sais pas, il y a eu un truc sur ce tournage qui s'est débloqué et je savais qu'en le tournant, on faisait un truc bien, en tout cas dans sa DA, tu vois, dans son truc, dans son genre particulier. Mais évidemment, ça m'a mis un pied dans le cinéma différent. Enfin, les gens commencent à me connaître, j'ai commencé à recevoir beaucoup plus de propositions. Ouais, ça, c'est un petit tournant, enfin c'est un gros tournant plus dans ma carrière.
Est-ce que tu t'es sentie actrice parce que t'as eu le sentiment que c'était plus dur que d'habitude, que t'as fait plus d'efforts, qu'il y a eu plus de travail que t'as fourni pour ce film?
Ouais, j'ai pris du poids beaucoup pour le film, je me suis dépassée, ça a changé des choses dans ma vie de tous les jours. Genre avant je faisais beaucoup plus attention au regard des autres. Ou du moins, je faisais genre, je m'en foutais, mais en fait, je m'en foutais pas du tout. Aujourd'hui, je m'en fous vraiment un peu plus, tu vois.
Grâce à ce film?
Bah ouais.
Parce qu'à l'image que tu renvoyais dans ce film, justement, t'étais vraiment sans... Enfin, tu vois, tu te posais pas ces questions-là, donc ça a vraiment changé un truc sur ta personnalité, ta manière de te présenter, toi.
Ouais, okay, parce qu'en fait, pour te raconter la petite anecdote, le premier jour de tournage sur Nouveau Riche, j'ai pris du poids pour le rôle de Stéphanie. Je me laisse pousser les poils un peu partout, la moustache et tout, tu vois. Et j'arrive sur le tournage et c'est une scène avec Nassim, je crois que c'est la scène de la chambre ou je sais plus, en tout cas c'est une scène où on voit mon ventre, j'ai un crop top, non c'est la scène de la boîte de nuit ou je sais plus, et je vois que les gens regardent un peu genre mon corps, genre tu vois, en mode ouais elle a un corps, tu vois, je sens un peu le jugement, et du coup je suis un peu comme ça, je me sens mal à l'aise, je demande des trucs à me cacher et tout, et à un moment donné je vais fumer une clope, je me dis bon Zoc, soit tu kiffes le tournage pendant deux mois, soit t'es comme ça tous les jours, t'es mal à l'aise et tu vas pas kiffer. Donc je suis arrivée en mode qu'est-ce qu'il y a et tout, tu vois. Limite je pétais sur les gens, enfin, avec respect évidemment, mais tu vois.
Toujours dans le respect évidemment.
Toujours dans le respect
évidemment.
Tu vois ce que je fais, tu vois. Donc voilà.
Zoc, c'est ton surnom du coup, c'est ça?
Ouais.
Ok. C'est comme ça que tu t'appelles ou qu'on t'appelle?
Qu'on m'appelle, mais du coup que je m'appelle.
Ok, très bien. je reviens sur les lionnes. Tu joues donc un personnage de Kim, qui est un personnage, je l'ai dit en introduction, assez intense, qui est un personnage aussi de, pas de la trahir, mais de bipolaire, c'est ce qui est dit assez au début de la série. Comment on appréhende un rôle comme celui-ci? Parce que même si c'est une comédie d'action, d'humour, il y a quand même ces sujets-là, il y a des vrais enjeux dramatiques dans la série. Comment t'as appréhendé un rôle comme celui-ci?
Déjà, c'est une discussion avec Olivier Rosenberg, en qui j'ai entièrement confiance. Donc, c'est-à-dire que quand on parlait du rôle, quand on parlait de la prépa et même sur le tournage, quand il me disait de dire un truc, je le disais. Il connaît tellement bien son sujet, c'est lui qui a écrit cette série avec évidemment Karine et Mao, mais je veux dire, c'est son bébé.
Ouais, parce qu'il réalise, il écrit, il est aussi à la caméra, il joue le personnage d'Ezekiel.
Et il coproduit, tu vois, et il a un tel amour pour ces filles-là que, en fait, je savais que Kim, il l'aimait déjà de tout son cœur, donc je lui ai fait confiance sur des trucs. Après, évidemment, on appréhende. Moi, j'appréhendais beaucoup, parce que c'est un personnage... Tu peux dire un peu folle, peut-être un peu, parfois j'ai entendu débile, parfois j'ai entendu très vulgaire.
Excessive
parfois,
en tout cas
excessive,
peut-être.
On m'a déjà dit elle parle mal, etc. Mais c'est justement ce qui fait toute la complexité du personnage et ce qui la rend extrêmement touchante. Qui plus est, elle est malade dans la série. J'arrive pas vraiment à définir, tu vois, si c'est parce que... Si on prend les vrais termes de bipolaire ou de schizophrène, évidemment, c'est un sujet qu'il faut traiter entièrement.
Exactement.
Et là, c'est un peu, je trouve, en surface, mais c'est ce que Olivier voulait, j'ai l'impression.
On comprend en tout cas qu'il y a quelque chose, même à travers, sans spoiler, mais les discussions qu'elle a avec son elle intérieure. Enfin, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe dans son inconscient, en tout cas.
Bien sûr. Mais c'était hyper intéressant, tu vois.
Ouais.
Après, j'avais même demandé à Olivier, est-ce que tu veux vraiment que je me renseigne pour le personnage, pour la maladie, etc. Il m'a dit, non, j'ai pas envie que t'ailles aussi loin dans ça, tu vois. C'était voulu de lui.
Ok. Comment ça s'est passé? Parce que tu dis, c'est, enfin, on l'a dit, c'est en introduction, c'est aussi un groupe de femmes. Et je sais pas ce qu'Olivier veut dire en tout cas de la série. Est-ce que c'est une série qui se veut féministe? Je sais pas comment lui il la présente. Mais est-ce que toi t'as eu le sentiment, toi, qu'il y avait quelque chose comme ça, d'avoir aussi ces femmes fortes qui se prennent en main et qui défient un peu tout sur leur passage, aussi bien les injustices, le travail, Ezekiel qui est donc le grand bandit, le parrain de la cité. Est-ce que t'as le sentiment de faire un projet en tout cas qui est féministe?
En tout cas, quand je le regarde, oui. Tu vois, hier, c'était la projection, donc on a vu les deux premiers épisodes sur un grand écran de cinéma. Et je me dis, putain, quand même, il a fait un truc où il met quand même cinq femmes en avant de malade. Et surtout, c'est fait par un homme, et c'est fait par un homme. Il est tellement sain, Olivier. Je veux dire, il n'y a pas un moment où tu dis, il est bizarre.
Ouais.
Il me regarde bizarrement, il me dit des trucs chelous. Enfin, tu vois, il est tellement sain, tellement... C'était exceptionnel. Donc oui, il y a un gros potentiel féministe dans la série, mais qui n'est pas direct en fait, qui n'est pas imposé. Donc ce qui le rend encore plus féministe, je sais pas si c'est ce que je veux dire.
Je comprends, mais c'est pas premier degré, on te dit pas ça l'est, mais en fait potentiellement ça l'est via ce que ça
c'est
raconte.
C'est pas donneur de leçons.
Ouais.
Mais finalement, t'apprends plein de choses.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau qu'on entend dans la série, car il y a une BO assez rap dans la série, ce qui évidemment m'a fait plaisir. Et on entend un artiste parisien, pour le coup, même si la série se passe à Marseille, c'est Sopico.
Oui.
On entend un morceau de Sopico qui s'appelle Slide, un morceau qui était présent sur l'album Nuages, et donc on va s'écouter ça tout de suite. Sopico avec Slide, gros morceau et gros clip aussi à l'époque, ça. On s'écoute ça, on se retrouve juste après avec Zoé Marshall.
dire. Mon gars, va, pourquoi tu trembles, pourquoi tu tends, tu tiens plus droit. Je dois capter des gens dans la soirée, écrit sur mon emploi du temps. Tu te poses des questions dans les toilettes, tu te poses des questions devant moi comme les douaniers. Slide, un salaire de 4 sur le poignet. Le respect se perd, il a canné. Yeah. Je suis très calme en général de guerre. Toute la journée ou très tard, je sais. Mon bébé, si je prends millions de liasses, je deviens direct plus mignon, je yasse. C'est pas cool de leur souhaiter la mort. S'ils continuent comme ça, mon frérot dit qu'ils vivront de moi. Un peu moins en fonction de ce qu'ils diront de moi. Je prends la vie par le chignon, je maille. Je prends la vie par les vœux, sous la taille. Tu préfères la défense ou l'attaque. Dans les deux cas, je sors les canons. La concurrence est morte sous la table. Je suis en avance de 2 ans sur l'heure de ta mort. Si j'ai le mort, je vais laisser qu'une odeur de cadavre. T'as juré sur l'honneur de ta race. T'as perdu, je suis dans le cœur de ta maman. Si t'as, je fais du beurre ou un meurtre d'habillage. Ça se passe clairement à fond quand c'est pas moi qui rappe. Viens, on ride la moto d'Akira. Je t'ai servi le meilleur plat d'Ita d'Akimas. Pourquoi tu t'es pris pour c'est pas quoi. Y'aura personne pour sauver ta poire. Si vous faites pas le truc correctement, cette vie vous baisse très très fort et vous laisse à poil. Tu vois ce que je veux dire. Ah, ok, ça, ok, tu vois ce que je veux dire. Non, ok, ça, ok, tu vois ce que je veux dire. Non, ok, ça, ok, tu vois ce que je veux dire. Ok, ça, ok, tu vois ce que je veux dire. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Y'a des gens qui sont costauds de nez. Sans autres qui disent qu'ici y'a trop de mets. Sans je vois le verre à moitié plein, je le dé. Sans je vais augmenter le ratio de mes chances. Enfoiré des palis parce que ton banquier te fait des sourires quand t'es à des coups. Vert, je suis le chaud, mon fils sortez les poux. Belle, je suis la preuve, vous prêt à la découpe. Celle qui m'a vu naître a pas d'a priori. Je suis dans le cabriolet, j'écoute Cabrioli. Dans mon secteur, les Nambos sont pas bioniques. Il a perdu son âme quand il a dit all-in. Je suis la fusion Nirvana et Wu. J'ai eu de rage, j'ai dit voilà mais où t'es. Je me suis battu contre Draman et Hugo. Aucune diff entre une droite et une gauche. Maria du bout quand t'es pas ready. Elle a gobé, élargi sa rétine. Pour un X ou un Wico ça rétine. Des petits sont traits du père, c'est pas internet qui ira les éduquer. J'ai ramassé du pèse mais j'ai laissé du terre. Je joue un solo, je fais goûter du texte. Je m'inscris au main event, t'es dégoûté du père. Ma guitare c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un Uzi au RTV. Préviens tes consignes, ramène toutes tes fesses. Mon album va déclencher la haine des frères. Ma guitare c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un Uzi au RTV. Préviens tes consignes, ramène tes fesses. Mon album va déclencher la haine des frères. Ça, ok, tu vois ce que je veux dire. Non, ok, ça, ok, tu vois ce que je veux dire. Non, ok, ça, ok, tu vois ce que je veux dire. Non, ok, ça. Je veux dire si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle.
Le morceau s'appelle Slide donc, et il est signé Sopico.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Et ce morceau, il est présent donc dans la série Les Lyonnes, qui sort le 5 février sur Netflix. Série écrite, coproduite, réalisée par Olivier Rosenberg, qui apparaît aussi, qui joue le rôle d'Ezekiel. Et elle se passe à Marseille. Comment c'était d'être à Marseille pendant le tournage?
C'est pas vraiment à Marseille, c'est à Salon de Provence.
Ah, c'est pas loin, d'accord, ok.
C'est à 30 minutes.
Ok.
Ça te met dans un espèce de délire quand même, tu vois. C'était un espèce de petit village, on était tous dans le même appart-hôtel avec les filles. On se levait le matin, il faisait bon. C'était très agréable hein, quand même.
Ouais, ok. Il y a un casting aussi qui est... Parce qu'il y a Jonathan Cohen qui coproduit aussi la série et qui joue un personnage dans la série. Il y a François Damiens. Comment c'était de donner la réplique aussi? Même si toi, t'as peut-être pas beaucoup de scènes avec l'un et l'autre, d'ailleurs. Mm-hmm. Hein. Est-ce que c'était, je sais pas, impressionnant, toi? Qu'est-ce que ça a apporté de les avoir aussi au casting de cette série?
Après, comme tu dis, moi, j'ai pas eu tant de scènes que ça avec eux. Après, les avoir à côté de moi sur le plateau, c'est-à-dire que j'arrive au HMC, je vois François Damiens en train de se maquiller, et que j'arrive et je vais le voir et je lui dis « je t'adore ». Et que je vois qu'il est trop gentil, je dis « mon Dieu, quel kiff ».
Il a vraiment cette image-là, on l'imagine. Ça me ferait de la peine que tu me dises qu'il est pas sympa.
Ouais, il est trop gentil. Et j'ai l'impression qu'il était très timide au départ, tu vois. Ouais. Et c'est quelqu'un qui se livre au fur et à mesure. Mais il est magnifique, cet homme. C'est exceptionnel de l'avoir sur un plateau.
Ouais, c'est un comédien, en plus, qui est très polyvalent. Ouais. Qui peut aussi bien jouer des choses très drôles, des choses très dramatiques. Un peu, finalement, comme, j'ai aussi le sentiment que toi, t'as un peu ce truc-là, à la fois de vulnérabilité, de sensibilité, et aussi un truc drôle, un truc d'humour qu'on retrouve dans cette série. Est-ce que la partie humour, tu l'as toujours eue en toi? Est-ce que t'as toujours été à l'aise avec ça, avec l'idée de justement de te mettre, de tourner en dérision, de te mettre parfois dans des situations inconfortables, comme c'est le cas dans cette série, comme c'est le cas dans Nouveau Riche? Est-ce que c'est un truc qui est naturel pour toi?
Mais je pense que ça vient beaucoup de l'adolescence, ça, parce que quand j'étais adolescente, moi, quand j'avais 14-15 ans, tu vois, je rentrais pas vraiment dans les critères de beauté de mes copines, qui avaient des formes ou qui étaient très jolies, qui avaient des visages très fins. Moi, je faisais déjà du 40 en pied. Genre j'étais très grande, j'étais toute plate et tout, tu vois. Donc à chaque fois mon truc de défense c'était un peu la rigolade.
C'était l'humour,
ouais, l'humour et de faire rire les mecs, tu vois, ou les gens qu'on rencontrait et tout, d'appeler tout le monde frérot et tout, un truc de défense, mais du coup qui m'a rendu un peu la meuf gaulerie du groupe. Et du coup j'ai gardé ça en moi parce que j'aime bien en fait faire rire, tu vois. Mais aujourd'hui ça m'apporte pas mal, hein.
C'est-à-dire?
Bah, qui rit à moitié dans son lit, ça qu'on dit.
Ah, c'est réel, ça? Non, mais du coup, t'en as, aujourd'hui, c'est une arme même de. Enfin, c'est un truc de séduction. À l'époque, c'était peut-être uniquement de la défense et de la protection. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui est.
C'est
qui
un
est,
vrai atout.
Ok. Ouais, donc, tu t'en sers aujourd'hui et cette adolescence, ça t'a permis aujourd'hui d'être plus à l'aise en tant que femme. C'est une autre.
Mais moi, quand je fais rire mon amoureux qui partage ma vie, c'est magnifique.
Okay.
Je suis la plus heureuse du monde.
Ok. Alors, on parle bien sûr de la série Les Lyonnes. Elle est sur Netflix, je l'ai dit. Et toi, donc, t'as déjà Nouveau Riche, t'es sorti sur Netflix. Aujourd'hui, quand on est une jeune comédienne comme toi, est-ce qu'on se pose la question, tu sais, du canal de diffusion? Moi, j'ai le sentiment que pour toi, c'est peut-être pas important. Est-ce que ça sort au cinéma? Est-ce que ça sort sur les plateformes? Est-ce que ça sort à la télévision? Est-ce qu'on se pose cette question-là de où est-ce que va atterrir son travail?
C'est intéressant. Moi j'ai toujours eu un discours de tant que le projet est bien, que ce soit sur YouTube, Netflix, Prime, Canal, cinéma, ça m'est égal. Après, j'avoue, sortir un film au cinéma, c'est quand même autre chose que les plateformes, parce que les plateformes, en fait, bon, tu sais que ça va être visionné dans tous les cas, un peu, enfin, après, t'espères évidemment beaucoup que ça cartonne, etc., mais tu sais qu'il y aura quand même un minimum de visionnage, alors que le cinéma, quand tu fais vraiment pas d'entrée, tu fais pas d'entrée.
Ouais.
Et t'attends...
C'est plus violent, peut-être.
C'est violent, ouais, c'est violent. Après, bon, faut avoir évidemment beaucoup de recul, je veux dire, c'est pas parce que ton film marche pas qu'il est nul.
Bien sûr.
Tu vois, donc voilà. Mais après, j'ai pas ce... Évidemment, c'est toujours un kiff, en fait, de sortir un truc là. J'ai hâte que la série, elle soit jeudi matin sur Netflix. Et en même temps, un film qui sort au cinéma, j'ai hâte d'avoir le soir le nombre d'entrées. Enfin, tu vois, c'est différent, en fait.
Est-ce qu'il y a pas aussi la force avec une série sur une plateforme comme ça? C'est que... En fait, ça peut aussi être regardé dans le monde entier.
Ouais.
Parce que, c'est ça, mine de rien, c'est quand même quelque chose. J'en parlais à l'époque avec Vincent Cassel quand il avait sorti une série Apple. Il me disait que c'était quelque chose qui était très nouveau pour lui. C'est qu'en fait, tu sais qu'elle est sur une plateforme et qu'elle va être disponible, traduite instantanément dans le monde entier. Ça, mine de rien, c'est-à-dire que t'es pas à l'abri que les Lyonnes soient un carton au bout du monde,
t'imagines.
En fait. Non, mais c'est une réalité, ça.
Ça serait génial.
Ouais. Ça, c'est la première fois. T'as ça qu'avec les plateformes, en fait, aujourd'hui.
Que avec les plateformes, ouais. Avec les plateformes. Et d'ailleurs, c'est assez fou quand tu vois, parfois, ils te font un pourcentage des gens qui regardent la série. Tu vois, dans tel pays, ça a bien marché. Par exemple, je crois que Nouveau Riche, puisque j'ai l'expérience, je crois que ça avait cartonné au Maroc, tu vois. Enfin, et j'étais allée à Marrakech, moi, au souk, mais laisse tomber, c'était exceptionnel.
Les gens te parlaient de...
Mais on rigolait de fou. Ça m'appelait Stéphanie et tout, truc.
Ah, okay.
Ah, c'était exceptionnel.
Est-ce que c'est ton personnage le plus emblématique aujourd'hui?
Bah oui, je l'adore.
Ouais.
Bah ouais, je l'adore. Après, tu vois, Kimberley, je trouve que c'est encore autre chose.
Tout à fait, ouais. Tu vois, c'est différent.
C'est différent complètement, même si, bon, tu vois... Certains pourraient dire, ouais, elle fait tout le temps la même chose, mais c'est différent, c'est pas le même fond, c'est pas la même complexité, c'est pas le même perso, c'est pas le même parcours et tout, tu vois. Et c'est encore autre chose, ce perso. Tu vois, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire.
Quand tu dis, il y a des gens qui peuvent dire, elle fait tout le temps la même chose, est-ce que c'est une crainte, ça, que des gens puissent te cataloguer dans un certain rôle, sur une certaine même manière de parler, etc. Est-ce que c'est une crainte, ça? Ou tu t'en moques, ça aussi?
Non, je me pose quand même des questions, parce qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'en fait, la question de choix de cinéma, elle est très importante, tu vois. Et que, j'ai discuté avec Jean-Pascal Zadi au téléphone pendant longtemps, après un tournage de film que j'avais fait, et qui m'a dit, même si je savais un peu déjà, mais qui m'a vraiment confirmé le fait que une carrière de cinéma, ça se fait sur des noms. Et en fait, à partir de ça, je me suis dit, vas-y, faut faire attention quand même à ça.
Sur des noms, c'est dire non.
Ouais, dire non. Okay. Oui, bien sûr.
Ouais, okay.
Et donc, j'avais envie de tourner. Et en même temps, j'avais la frustration de dire, bon, bah, je tourne un peu tout le temps la même chose. Et puis, c'est un peu redondant. Il faut faire attention. Parce que Tu vois, après Nouveau Riche, j'ai fait un autre film d'action pour Prime qui s'appelle Carjackers.
Tout à fait. Qui est sorti l'année dernière.
Et après, on m'a proposé que des films d'action. Et donc, je me suis dit, ah, c'est dommage, faut pas louper le terrain où tu peux te dire, bon, bah, tu peux peut-être partir un peu à droite, un peu à gauche.
T'as pas envie de devenir Jason Statham française?
Non, je l'adore, mais non.
Évidemment que je l'adore. Un des meilleurs chauves au monde.
Ouais, bien sûr.
En tant que chauve, c'est important d'avoir des modèles. Et je pense qu'il est dans le top 3. Ouais. Voilà. On est avec Zoé Marshall jusque 23h. Alors, toi, tu es habitué, j'ai envie de dire, quand même, à être derrière la caméra, parce qu'à 8 ans, tu tournes dans un clip. Et oui, et ce clip, c'est ça.
Le monde est sourd, comme Beethoven.
Et oui. Ça, c'est Beethoven, de Michel Sardou. Et en fait, du coup, j'ai vu le clip, et c'est trop mignon.
Ouais.
Non, parce qu'en fait, j'avais jamais vu regarder ce clip, j'avoue que j'ai pas une énorme culture de la discographie de Michel Sardou. Et ça m'a fait, vraiment, ça m'a presque ému, parce que on te reconnaît. T'es là, tu cours avec ton petit doudou, etc. Et c'est trop mignon. Et est-ce que, quand tu fais ça, à l'époque, tu sais que t'as envie de faire ça? Est-ce que t'es à l'aise? Est-ce que t'as des souvenirs? Mais t'avais 8 ans, donc je sais pas dans quelle mesure on a des souvenirs de ces moments-là. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que tu dis que c'est une vocation à ce moment-là?
Ouais, je pense.
Ah ouais? Okay.
Surtout, ouais, je pense. Après, là, pour le coup, j'avais pas tellement forcé. C'est juste, bah, déjà, mon père réalise le clip. Et il castait des petites filles. Et il en trouvait pas une. Et du coup, comme ça, il m'a dit, vas-y, viens passer le casting. Et j'avais passé le casting, et j'avais trop aimé passer les castings. Qu'on me dise, ouais, vas-y, refais-la, mais comme si t'es un peu
triste. T'étais à l'aise avec ça.
Okay. Grave, genre.
Alors, quand on est petit, ça peut être terrifiant, je pense.
Ouais, ouais. Mais bon, vu que j'ai un peu baigné dedans, je me dis, bon, tu vois. Et j'ai fait ce clip-là, c'était archi. Enfin, en même temps, bon, j'étais en famille, tu vois,
bien sûr.
Ça allait. Puis on tournait le soir, on tournait tard. Donc je me disais, ouais, je me couche tard, j'ai 8 ans et tout, tu vois.
Ouais,
alors j'ai école demain,
cool.
Tu vois.
Ouais, ok.
C'était un peu rebelle, genre.
Ouais.
Mais après ça, ouais, grosse confirmation, genre, j'ai tellement envie de faire ça.
Tu disais que t'avais passé un casting pour les Lyon. On est toujours. Est-ce que c'est. T'es à l'aise avec les castings? Parce que j'imagine, moi, que ça doit être compliqué, peut-être c'est peut-être pas la partie la plus cool du métier. Est-ce que toi, ça te plaît, ça, les castings?
Moi, je préfère passer un casting et qu'on me prenne. Que qu'on me prenne sans casting, parce que j'aurais toujours peur que le réel se dise « Ah putain, je me suis trompée
ah, ».
Tu vois ce que je veux dire?
C'est une manière de valider...
Ouais, okay. Même moi je me valide, je me dis « Ok, bon, je teste un peu le casting, je teste truc, le réel », puisque souvent au deuxième, troisième tour, t'as les réels qui sont là et tout, tu vois. Donc moi, ça me rassure tellement de
ça,
passer
ça veut dire qu'en fait, t'as toujours pas confiance en toi et en tes qualités d'actrice. Si t'es encore là à te dire « Ouais, il peut se tromper, j'ai peur qu'il se dise qu'il soit trompé ».
Ouais, je sais pas, Et je me demande, est-ce que t'as un jour, est-ce que tu as totalement confiance en toi, mais même dans ta vie de tous les jours, tu vois?
Ça, je sais pas, mais peut-être quand tu peux avoir confiance, en tout cas, en tes qualités professionnelles. Tu sais, quand tu commences à... Bien, tu fais ça depuis longtemps, mine de rien. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, tu as quand même développé des qualités qui font de toi une actrice, tu vois.
Ouais,
qui...
ouais, grave. Non, mais après, la question de légitimité, maintenant, elle se pose plus. Okay. Déjà, ça, c'est un step, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Après, moi, j'adore, parce que sur les projets, j'essaye d'être hyper investie au max, tu vois. Donc, je propose évidemment des choses, tu vois. Donc, j'ai confiance aussi en ma proposition, en tout ça. Mais c'est pas un casting, ça me rassure, c'est bizarre. Hein.
Ok. Parce que moi, j'ai toujours le sentiment que ça peut être le moment un peu compliqué pour un artiste, parce que t'es là, tu te heurtes aussi à la validation de personnes qui te connaissent pas forcément, etc.
Aussi. Non, mais c'est vrai que faire des scènes où t'es censé être dans un avion, tu vois, à l'époque, en 1950, et que t'es dans une salle avec une meuf qui te filme à l'iPhone et un mec qui donne la réplique et bon, qui est pas acteur, bah c'est vrai que c'est compliqué, tu vois.
Ouais.
Mais on a l'habitude.
Je crois que toi, ton premier vrai gros tournage, c'est Disparu. C'était un feuilleton. Comment ça s'est passé à l'époque? Parce que c'était en 2014, donc il y a 12 ans, quelque chose comme ça.
Ouais.
Est-ce que tu as été à l'aise immédiatement sur un tournage comme celui-ci?
Ouais, franchement. Déjà, c'était réalisé par une femme qui s'appelait Charlotte Brandstrom à l'époque. Ouais. Enfin, à l'époque, toujours, elle s'appelait comme ça.
Elle n'a pas changé de nom.
Elle n'a pas changé
peut-être,
de nom,
je sais pas.
Et puis, j'étais entourée d'acteurs très, très bienveillants, dont celui qui jouait mon père, qui était Laurent Bateau.
Okay.
Tu vois, et il a joué mon premier papa de cinéma et c'était, il m'a pris sous son aile de malade. Franchement, heureusement, j'ai eu de la chance parce que c'est vrai que c'est hyper impressionnant pour un premier tournage, tu vois. Mais lui, il a été très très bienveillant avec moi. Il m'a mis à l'aise, on jouait ensemble. C'est là où j'ai vraiment appris que le jeu, c'est à deux.
Écouter l'autre. Ouais.
Exactement.
C'est quelque chose que souvent les comédiens disent, c'est parfois on peut avoir des comédiens ou des comédiennes qui sont trop habitués à réciter leurs textes et qui parfois ne prennent pas le temps d'écouter ce que dit son ou sa partenaire à l'écran. C'est important de. C'est là où tu comprends que c'est important ça.
Ouais, ouais. Bah oui, tu t'en croises. Hein. Après, chacun sa manière de jouer et d'être et tout. Mais après, moi, c'est vrai que le jeu, ça se fait vraiment à deux, quoi. Enfin, pour moi, un acteur, il est bon quand il joue avec l'autre, tu vois. Après, bon, parfois, bah, tu tombes pas sur des partenaires, tu vois, que t'as choisi. Donc, parfois, oui, oui, ça peut, vous êtes pas connecté, vous êtes pas compatible et tout. Donc, faut essayer de jouer un peu. Il y a des petites techniques, quoi, tu vois.
Tu parles de l'environnement, en tout cas l'entourage sur ce premier tournage. Tu sais, on a parlé d'Olivier Rosenberg, tu disais qu'il était extrêmement bienveillant, de François Damiens, etc., de Laurent Bateau, là. Est-ce que c'est important pour toi d'être dans un environnement presque familial? J'ai le sentiment que tu as presque un peu besoin de retrouver, tu sais, ce que tu as connu au début, c'est-à-dire quelque chose de familial, de bienveillant, des gens qui sont là pour que ça se passe bien, en fait.
Ouais, c'est fou que tu me dises ça. Oui, c'est vrai, c'est un peu vrai. Et d'ailleurs, je me dis putain, je suis un peu trop friendly parfois, genre je veux que ça soit mes potos, mes copains, c'est la colonie, tu vois, alors qu'en vrai c'est un vrai travail, tu vois.
Ouais, un travail cool, même si mais dur, j'imagine aussi,
bien
mais
sûr.
Ouais, c'est un travail, ouais.
Bah oui, c'est un travail tellement cool, mais ouais, j'adore ça. En fait, moi comme tu dis, j'ai connu les tournages comme ça, tu vois, et je trouve que c'est la meilleure façon de travailler. Je veux dire, tu peux avoir une bête d'ambiance sur un tournage et faire un méga bon film et un film archi émouvant, archi touchant, tout ce que tu veux. On n'est pas obligé de se parler comme des chiens pour faire un truc intense, tu vois.
Parce qu'on a plein d'histoires, tu sais, sur des réalisateurs. Je regardais une vidéo ce matin de Robert Duval qui parlait de Stanley Kubrick, qui demandait à ses artistes de faire 71, 80 prises, pardon, et que c'était extrêmement compliqué. Il parlait de Stanley Kubrick comme un ennemi des comédiens, malgré le fait que ce soit un réalisateur extrêmement célébré. Et j'imagine que ça devait mettre aussi une ambiance sur les plateaux qui devait être compliquée quand on te demande de faire 80, 100 fois ta prise. Est-ce que tu pourrais, toi, travailler avec quelqu'un comme ça, qui peut être dur, qui peut essayer de te pousser à bout parfois? Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Non, ça m'est jamais arrivé. Mais franchement, je pense que je pourrais, moi.
Ouais.
J'adore les techniques différentes, tu vois, j'adore quand il y a des réals qui me disent vas-y improvise, oublie le texte, improvise, fais ce que tu veux et tout. Il y a des réals qui font deux prises, il y a d'autres réals qui disent tu gardes mon texte, je veux pas que tu touches, je veux rien que tu rajoutes, je veux que tu sois neutre et tout. Ok, moi j'adore varier des trucs, tu vois. J'aimerais tenter l'expérience, ça se trouve ça va pas me plaire, tu vois. Mais en tout cas je l'ai jamais tenté encore, enfin je suis jamais tombée sur quelqu'un comme ça.
Ok. Il y avait de l'impro sur les Lyon, justement?
Bah, tellement. T'imagines bien.
Ça se voit.
François Damiens, même nous, entre filles, puis moi, Olivier, il me laissait une liberté telle que je me suis tellement amusée. Tu vois, parfois, j'allais trop loin. Il me disait non. Tu te tais, tu reviens à la réplique d'avant. Parfois, lui, il avait des impros pour moi en direct. Du coup, en pleine prise, il me disait Zoé, dis ça. Je disais ça. Tu vois.
Ok. Bon, je propose qu'on écoute un morceau. On va écouter un morceau issu d'un album que tu as recommandé. On s'en rappellera pas.
Oui.
De D6 qui est sorti récemment. Bon, on va écouter un morceau d'air qui est en playlist et qui est le tube. C'est Mélodrama.
Let's go.
Le morceau avec Théodora. Pourquoi cet album, rapidement? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce disque qui est un carton, encore une fois, porté par ce disque? Mais vu que tu l'as mis en reco, je me permets de te demander ce qui t'a.
Déjà parce que je suis dedans, Mehdi.
C'est vrai, absolument, dans Interlude.
Oui, et ça...
Ah, il y a un autre...
Bien sûr.
Waouh, j'ai pas assez travaillé.
Parce que, non, mais il n'y a pas mon prénom. Mais c'est fou, je pensais que t'aurais trouvé ça.
Non.
Eh ben, je chante dedans, mais je te laisse. Tu veux que je te le dise?
Ouais, je veux bien.
C'est Gloss. Le morceau Gloss.
Ah, ok. Oui, donc t'es vraiment en feat. Il t'a même pas crédité.
Non, parce
c'est honteux.
Dit, j'ai pas,
c'est honteux.
J'ai pas de page Spotify. Tu vois. Mais il a certainement raison. Okay. Certainement raison. Non, mais j'ai rencontré Cérine, donc d'ici sur un tournage, il y a 2 ans, du coup.
Bah, sur le film que t'as cité, ouais.
Exactement.
Cœur
Jacques, exactement. Et on est restés très, très proches. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et du coup, on adore aussi travailler ensemble. Il y a une vraie connexion sur le tournage et tout. Du coup, je suis souvent allée en studio le voir. J'ai adoré partager ces séances.
Oui, donc tu as vécu aussi même la création de ce disque-là.
Complètement, ouais, c'était magnifique. Tu vois, on a bossé sur Amsterdam et tout et tout. Et en fait, un jour, il était en studio avec son musicien Deji et il faisait un petit son. Et moi, je suis passée genre 2 heures après, tu vois, il était 1h du matin, tu vois. Et il me dit, ouais, vas-y, essaye une top line sur ce son et tout, en mode gaulerie, tu vois. Je fais, vas-y, je tente. Il me fait, ah, c'est pas mal et tout. Vas-y, dis ci, dis ça, vas-y, va en cabine. Ok, let's go. Et voilà. Et on
et
a fait ce son-là.
Et t'es en feat.
Ouais.
Incroyable.
C'est exceptionnel.
Tu sors un album un jour ou pas, toi?
Mon rêve, Mehdi.
Vraiment?
Mon rêve.
Tu pourrais le faire ou pas?
Mais il m'a fait chanter à l'Olympia, là.
Bah oui, j'ai vu des images sur Instagram, absolument.
C'est pas que, genre, j'ai jamais ressenti ça de ma vie, c'est que c'est une sensation, mais elle est exceptionnelle. J'ai envie d'arrêter le cinéma et d'être chanteuse.
Écoute, c'est peut-être ce qui va arriver. En attendant, on va s'écouter ce morceau, ce tube, évidemment, D'Issise et Théodora, Mélodrama, qui est resté je ne sais combien de semaines en tête des charts. On s'écoute ça, et juste après, on est de retour avec Zoé Marshall.
VGT dans le TGV, dégoûté. qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau du Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi, tout roule pour toi. Je suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Je suis comme un con dans ce méli-mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Je suis comme un con dans ce méli-mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne.
Poche pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine. J'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Je n'en ai plus d'hiver. Je suis dans un étoilé mais je repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes bras. J'ai jamais vraiment été ta valentine.
Ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. Je suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Je suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta valentine.
Ouais. C'était Théodora et Dices, Mélodrama. Voilà, on était tellement dans le morceau, on a oublié qu'il y avait une émission.
Pardon, oui.
Non, mais je t'en prie, c'est moi. On est avec Zoé Marshall jusque 23h.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et alors, il y a quelque chose qu'on a rapidement dit au début, c'est que Alien, c'est aussi une série de braquages.
Mm-hmm.
Vous braquez dedans. Et donc, je voulais qu'on parle de quelques films de braquage.
Oh là là.
Parce que c'est un genre à part entière dans le cinéma. Et d'ailleurs, parce que tu m'as envoyé plusieurs recommandations, merci encore. Et tu as envoyé un film culte avec une scène de braquage mémorable. Et ce film, c'est un film de Michael Mann qui s'appelle It.
Bientôt, pour la première fois à l'écran, Al Pacino et Robert De Niro, tous deux récompensés aux Oscars, s'affrontent.
Si je suis sur place et si je dois te neutraliser, j'aurais pas le choix. Je serais forcé de te descendre.
Et admettons que tu m'aies coincé et que moi j'ai pas le choix, parce que jamais je ne te laisserai me barrer la route. Ne crois pas que j'hésiterai. Pas une seconde.
Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, dans un film de Michael Mann. Hit.
Bon, c'est la bande-annonce de l'époque, ouais, hein. En VF, etc. On se remet dans une ambiance. Bon, film évidemment classique, Michael Mann, première confrontation entre Pacino et De Niro. Ils avaient déjà joué ensemble dans Le Parrain 2, mais ils n'avaient pas de scène ensemble. Voilà, on connaît l'histoire. Là, c'est vraiment cette fameuse scène mythique de leur rencontre. Pourquoi tu as recommandé ce film, même si bon, c'est un classique, mais pourquoi?
Pourquoi
et pourquoi il est important pour toi?
Figure-toi que je l'ai découvert il y a 3 mois.
Ok.
Kata.
Bah non, c'est jamais trop tard pour voir des bons films, en fait. Ça, c'est important de le dire, je trouve. C'est comme des bons albums, etc. C'est bon toute la vie, en fait.
Bien
donc,
sûr.
On a le droit de ne pas être tout le temps...
Ah bah, de toute façon, moi, je suis complètement larguée, donc okay. Je fais plus semblant. Avant, je faisais semblant, je dis « Ouais, je l'ai vu, et tout.
Ouais, » ouais.
Et je dis « Ah, tu vois cette scène-là de... ?» Je fais « Ouais, je l'ai vu, et tout. » truc. Alors qu'en fait, je sais pas de quoi je parle, tu vois.
Ouais.
Donc, je préfère dire la vérité. Maintenant, non, je l'ai pas vu, mais je vais regarder. Et donc, on me parlait souvent de « Je disais « J'ai pas vu. » J'ai regardé ce film, Mehdi. C'est pas que j'ai voulu le revoir tout de suite après. c'est que je suis tombée amoureuse de la structure, du scénario, des acteurs, des... je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça trop bien construit, je trouve ça tellement bien joué. Cette scène au restaurant, elle est mythique, mais à vie.
Absolument.
C'est des acteurs qu'on n'a plus, qu'on voit plus, c'est de la... Je sais pas, il y a un truc tellement précieux, tellement d'avant, tu vois, que j'ai adoré ce film.
Et même dans la réalisation, je trouve que le film vieillit bien, parce qu'il a 30 ans maintenant, donc avec des scènes d'action, et le cinéma d'action, on sait que ça peut vieillir, tu sais... la technologie avant. Et je trouve que c'est un film qui vit très bien. La scène de braquage qui est sans musique, sans rien, tu vois, c'est très immersif. Aujourd'hui, je sais pas si on fait mieux en fait. Il y a vraiment quelque chose qui survit à l'épreuve du temps, je trouve.
Bien sûr.
Avec ce film.
Complètement d'accord.
Il y a Pacino et De Niro. Est-ce que toi, tu as cette fascination pour ces acteurs-là, parce qu'ils sont souvent cités comme deux des plus grands acteurs de tous les temps? Est-ce que tu as grandi avec leurs films ou pas plus que ça?
Écoute, pas plus que ça, mais je découvre leurs films maintenant, tu vois, Le Parrain, j'ai découvert il n'y a pas longtemps,
ouais.
Je regarde pas mal de films d'Al Pacino, De Niro quand même, je le connaissais un peu plus, tu vois, mais les Affranchis et tout, c'est des trucs que j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Moi, depuis que je suis enfant, je suis beaucoup cinéma français, tu vois, je ne suis pas très branchée cinéma américain ou étranger, je me suis beaucoup plus branchée maintenant à partir de mes 26 ans, tu vois.
C'était ce qui se passait à la maison aussi, peut-être, c'était votre culture à la maison, c'était plus du cinéma français.
Ouais, après, mes parents, pas tant, tu vois, mais moi, c'est vrai que dans mes souvenirs, tu vois, j'ai des films qui ont marqué, genre Tout ce qui brille, tu vois, tout ça, quand j'étais jeune, tu vois, mais là, je sais pas, j'ai une passion pour les films étrangers. Vraiment, vraiment, ouais.
Bon, alors, on peut changer d'ambiance avec un autre film de braquage, c'est Ocean's Eleven. Est-ce que ça, tu as vu Ocean's Eleven? Non, t'as pas vu? Parce qu'il y en a trois. Hein. Et il y a même une version Ocean's 8 féminine, avec des... Justement, bah, j'avais même pas fait l'impression.
Mais ça, je
un
l'ai
peu
vu.
Comme les Lyons. Ah, bah voilà, avec la sœur. Donc, je vais juste recontextualiser, mais donc Ocean's Eleven, c'est Danny Ocean, personnage joué par George Clooney, qui vont braquer le casino de Terry Benedict, si je ne dis pas de bêtises, joué par Andy Garcia à Las Vegas. Donc, il y a eu trois films. Il y a même Al Pacino, d'ailleurs, qui joue dans le troisième, je crois. Et donc, il y a eu un spin-off qui est Ocean's 8, avec huit femmes, qui, et dont la sœur de George Clooney, je crois, qui est jouée par Sandra Bullock, si je ne dis pas de bêtises.
Il y a
Rihanna dedans aussi.
Exactement.
T'as vu celui-là?
Ouais, je l'ai vu.
Alors, moi, je l'ai pas vu. Okay. Il paraît qu'il est cool.
Ouais, c'est
qu'il
sympa.
Regarde bien, ouais.
C'est pas, ça va pas transcender ma vie, mais il est très cool, ouais.
Est-ce que t'as regardé des films de braquage avant les Lyons ou pas spécialement?
Non, je me suis pas. Mais tu sais, moi, je braque pas tant que ça dans la série.
C'est vrai.
Tu vois?
C'est vrai. Ouais, quand même.
Je suis un peu dans la petite voiture en train d'attendre.
Oui,
je suis un peu le conducteur.
C'est vrai que t'es celle qui fait le comme dans Drive, en fait.
Ouais, exactement.
T'es Ryan Gosling dans Drive. T'as aimé ça?
Exceptionnel.
Ouais.
C'est un chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre, je suis d'accord. Et la musique. Ouais.
Non, mais m'en parle pas. C'est un chef-d'œuvre dans tous les sens du terme.
Ah ouais, grandiose. Alors, il y a d'autres films de braquage. Évidemment, il y a Un après-midi. Je te recommande si on l'a pas vu. Un après-midi de chien.
Bien sûr.
De Ciné Le Maître avec Al Pacino. Et là, qui raconte un braquage raté. Il braque une banque et tout se passe très mal. C'est vraiment une équipe de bras cassés avec Al Pacino, avec un acteur qui s'appelle John Cazale qui est décédé très très jeune malheureusement. Et c'est très très drôle parce que c'est à la fois drôle et à la fois dramatique. Donc un peu sur un ton proche peut-être de ce que vous avez fait dans la série. Et je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est un classique du cinéma des années 70. Donc voilà, si tu veux voir un autre film avec Al Pacino, je te le recommande. Et autre film que je me permets de recommander, The Town de Ben Affleck.
Exceptionnel.
Ah,
je l'ai vu il n'y a pas longtemps celui-là aussi.
Il est chaud, hein.
Eh ben, tu vois, j'ai appris un truc, tu vois, avant d'aller braquer, il prend sa douche et il se frotte.
C'est
il
vrai.
Il se frotte très très fort pour faire disparaître, j'imagine, toute la moindre molécule d'ADN sur lui,
moindre
truc. Et j'ai trouvé ça fascinant, genre, non mais il est génial
même
ce film.
Même les masques, etc.
Il est génial ce film.
Bon, Ben Affleck, très bon réalisateur. Ouais. Je trouve qu'il a bien fait le passage de l'acting à la réalisation. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aurais envie de faire? Et je crois savoir que oui.
Ouais, bien sûr, c'est toujours tentant. Bah, de toute façon, après, j'ai l'impression que c'est un truc qui arrive après, tu vois. Par exemple, quand je vois la carrière de Gilles Lelouch, moi, elle m'inspire beaucoup parce qu'il a déjà, il a mis du temps pour trouver sa place dans le sens
en tant que comédien déjà.
En tant que comédien principal, très bon comédien. Et après, là, maintenant, c'est un très bon réalisateur, mais il a pris le temps de le faire. Je sais pas comment dire. Il a réalisé avec Le Grand Bain. Tu vois, après, je crois qu'il avait réalisé des clips ou des pubs.
Absolument. Il a fait plein de clips dans les années 80, notamment pour MC Solar, pour MTM, etc.
On m'avait dit ça, je crois, mais j'ai jamais vu. Et j'ai trouvé ça sublime. Et je trouve que là, maintenant, la carrière, elle est exceptionnelle. Bah, moi, j'aimerais bien avoir une petite trajectoire comme ça.
Prenant ton temps.
Faire mon temps, être comblée en tant qu'actrice. Puis après, quand t'es comblée, bah, peut-être passer à la réal et tout. Mais j'adore écrire. J'adore toucher à tout, en fait.
D'ailleurs, t'avais écrit aussi une série sur YouTube. Close-up, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était un peu le même élan créatif, quelque part, à l'époque.
Ouais, complètement. Ouais, ouais. C'était plus en mode, bon, bah, on me donne pas ma chance, donc vas-y, je vais me la donner, tu vois. Donc, on s'est déterré en tant que jeune. De toute façon, c'est ça la clé. Hein. C'est
de faire faut y aller.
Ouais, faut y aller.
Zoé Marshall est avec nous jusque 23h. Alors, j'aimerais qu'on parcourt un peu peut-être les films de ta vie. Je te donne une situation, enfin, pose une question, tu me dis quel est le premier film auquel tu penses. Mm-hmm. J'ai déjà cité Tout ce qui brille, peut-être que tu as le droit de le reciter évidemment, vas-y. Mais le premier film dont tu te souviens vraiment quand tu étais enfant.
Ah, Dumbo.
Dumbo ?
On dit Dumbo, mais je dis Dumbo, mais ouais, ouais.
Le c'est Dumbo, dessin animé. Ah, l'éléphant ? Ouais. Ah ouais, ouais, l'éléphant. C'est Dumbo, non ? C'est Dumbo, je sais pas.
Non, mais moi je dis Dumbo, mais apparemment c'est Dumbo
qu'il faut dire. Ouais, je, ça, crois, ouais. Je crois, je crois, je vais pas dire de bêtises. C'est ton premier souvenir ?
Pff, magnifique. Ouais. La chanson.
Il est pas trop triste, non ?
Il est hyper triste.
Il me semble. Hein.
Mais en fait, j'ai un rapport avec ma mère qui, moi, pour m'endormir quand j'étais petite, me chantait la chanson de la maman à Dumbo, du coup. Tu sais, mon okay. Bébé si joli, là.
Cette tu peux dire Dumbo si tu veux. Moi, je veux pas te.
Bah, je dis Dumbo, alors vas-y.
Dis ce que tu veux.
Donc ouais, Dumbo, je dirais Dumbo.
Ok. Le film, s'il y en a un qui t'a donné envie de faire ce métier. Ça peut être un acteur ou une actrice aussi, peut-être que t'as vu plus jeune. Et
ouais, ouais,
si
ouais.
Je veux faire comme lui, je veux faire comme elle.
Je pense que moi, j'ai eu un petit déclic quand même quand j'étais ado. Bon après, dès mes 8 ans et tout, j'ai voulu faire ça, tu vois. Donc,
c'est
déjà,
ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais.
Ouais. Je pense que c'est mes parents. Mais après, quand j'ai vu Nos jours heureux de Toledano et Nakache,
ouais.
Je me suis dit, quand j'étais adolescente, je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien de tourner des films.
Mais c'est encore une ambiance qui a l'air familiale.
Ouais.
C'est toujours ça, c'est ça que tu recherches, en fait.
Ouais,
on est en train de comprendre ça. Mm-hmm. Tu veux juste t'amuser avec tes copains et ouais. Tes copines, toi. C'est ce que tu veux faire dans la vie. Ok. Et c'est là, en fait, c'est l'esprit, l'ambiance qui t'a presque donné envie d'être sur un plateau de tournage, en fait.
Ouais. Okay. Ouais, ça avait l'air tellement fun. Tu te dis, quand t'es jeune, tu te dis, waouh, ça doit être tellement dingue et tout. Mais après, t'apprends avec l'âge que c'est beaucoup plus complexe que ça et que c'est vraiment un travail pour le coup.
Bien sûr.
Mais oui, à l'époque, oui.
Le film que tu as trop regardé, adolescente ?
Je vais te dire High School Musical. Hein. Ah, c'est peut-être un peu cliché à mon âge, mais ouais, c'est.
Non, réel, non, bah, c'était un film aussi important pour ta génération, je pense, quand t'étais adolescente.
Ouais, complètement.
C'est qu'elle s'est avec Zac Efron, c'est
ouais.
Ça ?
Ouais, 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 okay. Ouais. Ouais.
Tu voulais danser aussi, chanter comme eux ?
Je sais pas, je voulais le rencontrer en tout cas, ça c'est sûr. Mais
Ah, c'était le crush de ton adolescence, Zac Efron ?
Zac Efron, il a fait partie vraiment de ma vie, une bonne partie de ma vie, ouais.
Ah ouais ?
Tu vois, ouais, ouais.
Et parce que comme moi, je suis plus âgé que toi, mm-hmm. Du coup, je me rends pas compte de l'importance qu'il a pu avoir pour ta génération, c'était...
Ouais, puis il y a eu un truc au-delà de le phénomène du film, les fans et tout, il y a quand même un truc où tu te dis, bon, bah, tu vois, je pense que ça a fait aussi partie intégrante, parce que je me suis dit, bon, c'est des acteurs quand même, mais ils savent tout faire.
C'est vrai.
Il sait chanter, il a, tu sais, que c'est pas lui qui chante dans le 1, il chante dans le 2.
Okay.
J'ai appris ça, qu'il avait pris des cours de chant entre-temps. Ils savent danser, ils savent chanter, ils sont beaux, ils sont trucs, sont machin, vraiment un peu à l'américaine.
Oui, c'est
tu vois.
Ça, ce truc vraiment d'entertainer. Ouais.
Ouais, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, c'est pour ça, je joue un peu de batterie, je fais de la guitare, je chante, tu vois, je fais des trucs un peu partout. Je me suis dit, vas-y, bon, évidemment, pas à leur niveau, mais on essaye, tu vois.
Ok. Un film dans lequel tu aurais rêvé de jouer.
C'est une bonne question, ça, Mehdi.
Parce qu'il y en a un comme ça, quand tu le regardes, tu dis, j'aimerais bien être dedans. Quand
ouais,
même.
Je vais te dire, attends, je vais pas dire des conneries, de bêtises, pardon.
Non, mais tu dis ce que tu veux, ça va pas.
Kill Bill.
Ah ouais. Le rôle de Béatrice Kiddo.
S'il vous plaît. Enfin,
le rôle principal, on d'accord, de Uma Thurman. T'aimerais bien jouer un...
Bah ouais. Mon mec, il m'appelle Uma Thurman, donc je me dis, vas-y, ouais. Le rôle, il est sensationnel, c'est exceptionnel. Elle est sublime, mais en tant que femme, je pense que faire quelque chose comme ça, de tenir ce fil-là pendant si longtemps et d'être aussi vrai et aussi... elle est sensationnelle, franchement, c'est un rêve.
Il y a un aspect physique aussi, parce qu'il y a des combats.
Ouais.
Je pense notamment le combat à la fin du 1, qui est extrêmement... J'imagine compliqué en termes de préparation, de chorégraphie. Ouais. Ça, j'ai l'impression que ça t'attire aussi, ce genre de choses. Le côté performance physique, tu es aussi attiré par ça.
Ouais, j'adore, c'est de la prépa, tu vois. C'est des trucs que t'as pas l'habitude de faire. En fait, moi, j'adore jouer des trucs que je peux pas faire dans la vie, tu vois. C'est-à-dire me battre, en l'occurrence, tu vois. Et c'est hyper intéressant, surtout que tu travailles avec des gars qui t'apprennent énormément de trucs et tout. Enfin, je sais pas, c'est tellement salvateur. Il y a un truc, c'est génial, moi, j'adore ça.
Bon, on va aller en Suisse. Quelques minutes,
okay.
Le temps d'un morceau d'un artiste que j'adore et qui a sorti un projet exceptionnel, c'est Makala. Je sais pas si tu connais ce
rappeur. Mais attends, m'a fait écouter ce phénomène.
C'est trop bien.
C'est le dernier là ?
Le dernier, absolument.
Comment il s'appelle ?
Yamamoto, Yamoto. Yamoto. Yamoto.
C'est exceptionnel.
C'est exceptionnel.
Le clip est sans sas aussi.
Il y a plusieurs clips, notamment le dernier clip, c'est le morceau qu'on va écouter, c'est Loketo, qui est mon morceau préféré. C'est celui-là, c'est mon morceau préféré du projet, je le trouve vraiment phénoménal. Et on va s'écouter ça. Il était à la Cigale la semaine dernière d'ailleurs, c'était grandiose. Et il sera au Zénith de Paris, je crois, en septembre. Enfin, okay. J'ai plus la date exacte, mais en tout cas, voilà, on va regarder. Makala, Loketo, c'est génial, on s'écoute ça tout de suite.
Fais ta vie en fête, mata, mata, petit kata, position et kata,
kata,
kata, kata, tout distraction et yété, yété.
Mom.
Tu m'as compris, non, tu m'as, j'ai compris, yeah, j'ai très bien compris, yeah, tout le monde va comprendre, comment, tu m'as compris, non, tu m'as, j'ai compris, yeah, j'ai très bien compris, yeah, tout le monde va comprendre. On a grandi avec Jeffa, et Dardy, fuck le lundi, et mardi, vive mercredi, vendredi, je garde la vie, mais avant que ce soit, ça sera toujours avant cher. J'étais posé dans ma breu. La daronne veut que je mette start pour le cop. Une carte Africa call. Dans mon texte, tout genre de. Dans mon texte, tout genre de grand. Y'avait ceux qui étaient des cracks à l'école. Ceux qui vendaient deux qui collent. Juste à côté de chez Jordi, Paul, Fried et Lewis. Et change, mon gars change. Dans le quartier, c'est une légende. Dans la ville, tu l'appelles. Je sais dire je t'aime, insulté en plusieurs langues. Les vacances d'été, j'étais tout le temps aux avant-chères. Un texte pour plusieurs blettes, c'est le mélange qui m'a fait voyager. On a grandi avec, tu m'as compris, le fuck le lundi et mardi, vive mercredi, vendredi, j'en garde la vie. Mais avant que ce soit, je n'ai, je peux pas te mentir. C'est le premier dans ton mixtape.
Qu'est-ce que j'ai sorti moi? C'était un album, on a un vieux dans toi. Quel mixtape?
Emma,
Feta, 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 via fête. Mata, 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 petit quand ta position est Kata,
Kata,
Kata, Kata, tout distraction est Yete, Yete, Jordia, Beta, Lepia, Beta, Beta, Zenith, Kala.
C'était pas trop facile, mais ce travail, la diplomatie. Yeah, manu des bacalas, mais juste pour me rappeler les bases. Non. Depuis jour là, mon nom de famille est devenu mon blaze. Ah, ça lui, yeah. Papa s'expulse de là, mais il espère tourner au quartier. 2026, ils y construisent un bat qu'à mon blaze.
On a grandi.
C'était donc Makala avec Loketo qui sera en concert au Zénith de Paris le 27 novembre prochain.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Nous sommes avec Zoé Marshall pour la sortie de la série Les Lyonnes sur Netflix et c'est l'heure des recommandations. Tu m'en as envoyé plusieurs, on en a même déjà parlé de Hit, on en a parlé de On s'en rappellera pas, de Dixit, mais tu m'en as envoyé d'autres, j'ai été gâté. Et notamment, l'album de quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, qui vient de faire un triomphe au Grammy, qui sera à l'affiche de la mi-temps du Super Bowl ce dimanche. D'ailleurs, nous, on aura une émission.
C'est dimanche
sera... C'est dimanche, absolument.
Arrête.
Si, si.
J'avais oublié.
Ouais, c'est dimanche. Mais c'est dans la nuit. Faut veiller. Hein,
on va veiller.
Pour le moment, on va veiller. Sinon, on verra le replay le lendemain matin. Et donc, tu as cité son dernier album. Je vais pas le dire. Tu sais le dire en espagnol ou pas?
Debir tirar más fotos. Non,
bravo,
c'est ça.
Bravo, exactement. Ouais. Écoutons un extrait.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude.
Alors, j'allais dire pourquoi Bad Bunny. J'ai l'info que tout le monde aime Bad Bunny. J'ai l'info qu'on est toutes et tous tombés fous amoureux de ce mec. qui là, effectivement, vient de faire un triomphe au Grammy, avec en plus un discours politique. Je dédie là le Super Bowl. Depuis quand tu l'écoutes et qu'est-ce qui te plaît autant chez ce type?
Moi, j'écoute. Enfin, Bad Bunny, il est tous dans notre playlist musicale sans vraiment qu'on s'en rende compte, ouais. Tu vois. À l'époque, son feat avec Shakira, enfin tout ça, tous ces sons-là un peu vibes playa,
ouais,
et tout,
ouais,
tu
tout
vois.
À fait.
Ça, j'ai saigné ça beaucoup, beaucoup. Mais là, en fait, j'ai redécouvert Bad Bunny en regardant les courts-métrages qu'il a fait par rapport à l'album pour le vendre. Son court-métrage, même les clips qu'il a fait avec le vieux qui danse dans un cours de salsa.
Ouais.
Le court-métrage qu'il a fait avec sa petite grenouille, là. Et ce même personnage, ce même vieil homme qui va aller... Enfin, en fait, j'ai trouvé ça trop smart. Et ça m'a cueilli.
Oui.
Et donc,
au-delà de la musique, même, c'est aussi l'image.
Au-delà, ouais. L'image est trop bien faite. C'est là où je me suis dit, vraiment, l'image est importante, tu vois. Parce qu'elle m'a cueilli. Et du coup, ça m'a donné envie d'écouter en aimant le gars. Donc en fait, j'ai aimé l'album automatiquement. Mais vraiment, l'album, je le saigne. Tu sais, c'est le genre d'album où tu poses et tu mets l'album.
Tu peux l'écouter d'une traite.
Ouais, tranquille.
Autre recommandation, c'est le comédien Stephen Graham.
Ouais.
Alors pourquoi?
En fait, j'ai vu Adolescence plupart du monde entier. Et je trouve que c'est un homme qui m'a profondément touchée. Déjà, cette série est juste, si tu l'as pas vue, faut la voir.
J'ai toujours pas vu, mais tout le monde m'a dit le plus grand bien. Ouais, je sais.
Tout est bien. Le jeu, ce que ça raconte, le fond, la critique aussi de la société, les plans séquences, quand même hallucinant de faire ça en plan séquence de 4 épisodes d'une heure, enfin, c'est exceptionnel. Et lui, il a quelque chose, je pourrais pas te dire, parfois il y a des gens qui te touchent, et moi ce monsieur me touche, je sais pas, dans son jeu, même des interviews qu'il a fait, même tous les prix qu'il a reçus, comment il parle de lui, de son équipe de foot, qui est son équipe de tournage, il met tous les gens en avant, il a toujours un mot pour sa femme, je sais pas, il y a un truc qui me touche, c'est ce mec, et il a l'air tellement humain, genre c'est... Voilà, je l'aime, genre je connais pas, mais je l'adore.
Ok, et alors je crois qu'il y a une autre recommandation aussi, c'est Les Fourberies de Scapin de Molière. Je crois que t'as aussi fait du théâtre, toi.
Oui.
Je sais pas si tu as joué ou pas Molière, d'où te vient cet intérêt pour ce texte.
En fait, on m'a demandé un livre dans la liste, et je me suis dit, bon, j'en ai pas lu beaucoup, mais dis. Donc je vais dire un livre que j'adore, et qui s'appelle Les Fourberies Scapin de Molière. Tu sais un peu l'histoire ou pas?
Non.
Ouais.
Je vais dire non. Parce que c'est vrai. Et en fait, j'ai dû le voir à l'époque, à l'école, mais j'ai pas le souvenir comme ça immédiatement.
Bah, elle est géniale, cette pièce. C'est une pièce de Molière qui est très, très drôle. Et ça raconte des pères qui veulent marier leur fils avec des femmes différentes. Et ils leur imposent. Et eux, ils veulent pas se marier avec cette femme, mais avec une autre. Et du coup, ils vont faire appel à l'aide à Scapin, qui va les aider à détourner le père en faisant des scapineries, en gros, le gars, tu vois. Et en fait, cette pièce, j'ai un truc particulier avec, parce qu'à l'époque, je l'avais lu d'une traite. Déjà, j'avais adoré. Et c'était dur pour moi de lire un livre, parce qu'on m'a tellement imposé des livres
à l'école,
chiant, affreux, que ça m'a dégoûté de la lecture. C'est même pas une raison, parce que je pourrais m'y mettre aujourd'hui, mais bon, voilà, en tout cas, ça,
c'est resté, en tout cas.
Ouais, c'est un peu resté. Et ça, je sais pas, je l'ai joué tellement en cours de théâtre et tout, je suis même allée à... Pour te raconter une petite anecdote, on a le temps?
Évidemment.
Ok, trop bien. Je suis même allée faire, j'ai passé la classe libre, moi, tu sais, le concours de la classe libre, c'est un concours de théâtre, comme le Conservatoire National de Paris et tout, c'est quand même un concours assez huppé, où il y a pas mal de gens qui le passent. Et t'as 20 personnes qui sont prises à la fin, mais je sais pas combien t'as. Donc... Bref, moi je suis allée jusqu'au troisième tour. Et je me suis dit, troisième tour, vas-y, je vais proposer quelque chose de différent. Donc c'était un monologue imposé et une pièce avant 1970 que tu faisais de ton choix, tu vois. Et donc je choisis Les Fourberies Scapin et je dis à mes copines, tu vois, je dis, vas-y, accompagnez-moi à faire la réplique et tout. On va le faire en mode Kaira, tu vois, en mode 9-3, genre.
Okay.
Genre à l'époque, tu vois. Et donc j'arrive, t'as 10 personnes devant moi. Des vieux, enfin tu vois, t'es très théâtre, etc. J'arrive, je mets mon enceinte, je mets Au Calme de Booba. Et je vois Monsieur Florent à l'époque, parce que je crois qu'il est... Bon, bref. Et qui fait une teutée de 3 mètres de long et qui me coupe au bout d'une minute, parce que je rajoute des mots. Enfin, tu vois, ouais. Je parle en mode comme ça, mais en mode la langue de Molière et tout. Il n'a pas du tout fait qui, donc j'ai évidemment pas été prise... à ce concours.
Mais ça reste un souvenir.
Tellement bon souvenir.
Bon, très bien. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle donc que Les Lyonnes, c'est disponible le 5 février, enfin aujourd'hui d'ailleurs, sur Netflix. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous aujourd'hui. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Coy. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'est Tila Iravu et Selim Guerribi. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, émission spéciale Jams pour les 20 ans, mais évidemment,
j'adore.
On l'aime tous. Pour les 20 ans de Dans ma bulle, qui a 20 ans, et oui, ça ne rajeunit pas. On se retrouve demain, même heure, à la régulière.